France Culture.
Le journal est présenté par Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour à tous et à toutes. La Roumanie riposte après le survol de son espace aérien par un drone non identifié, suspicion russe. Décryptage avec Virginie Pironon de la rédaction internationale. C'est au tour des agriculteurs de mettre la pression sur le gouvernement. La FNSEA annonce une journée d'action le 25 septembre. Un enjeu, contrer l'accord de libre-échange du Mercosur. La rentrée du Rassemblement national, c'est ce week-end. Nous serons sur place à Bordeaux avec Nicolas Balu pour interviewer Sébastien Chenu, le vice-président du parti. La Roumanie en alerte depuis hier. Un drone a survolé son espace aérien. Ça s'est passé au cours d'une attaque russe contre des infrastructures ukrainiennes. Sur le champ, la Roumanie a dépêché deux avions de combat, sans accuser la Russie, mais sachant que 19 drones russes ont survolé la Pologne 5 jours plus tôt. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France, le drone a survolé l'est de la Roumanie à la frontière avec l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle la région du delta du Danube. Vous vous y êtes rendu en reportage et ce n'est pas la première fois que cette zone est visée.
Non, c'est loin d'être la première fois. Jusqu'à présent, les habitants du delta du Danube côté roumain ont plutôt subi en silence. Mais les incursions de drones russes et donc des explosions tout près des habitations côté roumain en réalité sont fréquentes. C'est loin d'être une nouveauté. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est par là, le long du Danube, que sont notamment situés les ports d'exportation de blé ukrainien, stratégique pour l'économie de Kiev et donc particulièrement visé par la Russie. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Hein. Il faut bien que les armes fournies par les alliés européens transitent quelque part.
Et les habitants sur place, vous l'avez confié, ils vivent dans la peur.
Oui, près des villages de Plaourou et de Kiliaveke, où je me suis rendue au printemps dernier, là où le drone russe a été repéré hier par les autorités roumaines. C'est ce que m'ont confié les habitants, en tout cas ceux qui restent, hein, car beaucoup de familles sont parties depuis février 2022. L'un d'entre eux, un pêcheur qui vit à 200 mètres seulement du port céréalier ukrainien d'Ismaïl, m'a même donné des fragments de drone Shahed, comme une preuve. En une seule nuit, par exemple, fin juillet 2024, 38 drones avaient été lancés par la Russie sur le port céréalier, 3 d'entre eux perdus côté roumain. Mais les autorités roumaines de l'époque, ça a changé depuis, demandaient aux habitants comme aux élus locaux de se faire discret, redoutant les conséquences. Alors les choses avancent. Au printemps dernier, une loi a été adoptée en Roumanie. Elle permet d'abattre les drones qui entrent sur son espace aérien. Loi pas tout à fait fonctionnelle encore, mais on le voit, après l'incursion de drones russes en Pologne, cette semaine, un cap a été franchi. Et au fond, la nouveauté, c'est que la Roumanie désormais communique sur le sujet et envoie 2 avions de combat F-16, comme ça a été le cas hier, pour surveiller la situation.
Merci Virginie. Et suite à la violation de l'espace aérien polonais, l'OTAN a déployé des avions de combat et des hélicoptères à la frontière polonaise cette semaine. Violation de l'espace aérien qui a d'ailleurs été condamnée par les États-Unis, notamment Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Marco Rubio qui se rend en Israël aujourd'hui pour montrer son soutien indéfectible à Benjamin Netanyahou. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Marie-Aimée, bonjour à tous.
Une visite qui intervient 5 jours après les frappes israéliennes sur la capitale qatarie, Doha, visant des membres du Hamas. Un sujet, Michel, au centre des discussions aujourd'hui.
Oui, le secrétaire d'État américain a tenu à mettre les choses au point. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous ne sommes bien sûr pas contents, mais il faut aller de l'avant, a-t-il déclaré. Auparavant, Marco Rubio s'était montré déjà très clair sur le sujet. Cette attaque ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler, évoquer l'impact que cela aura, a-t-il affirmé. Le sujet principal des entretiens du chef de la diplomatie américaine avec ses interlocuteurs israéliens doit porter sur l'initiative franco-saoudienne de reconnaissance de l'État palestinien lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Israël envisage une série de mesures en réponse à cette reconnaissance, telle que l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, et les Israéliens cherchent à obtenir le soutien de Washington pour une telle mesure qui pourrait notamment avoir un impact négatif sur les accords d'Abraham. Le seul véritable succès de la diplomatie de Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel. Les entretiens de Marco Rubio auront surtout lieu demain et cet après-midi, très symboliquement, il entame sa visite en se rendant au mur des Lamentations en compagnie de Benjamin Netanyahou.
Merci Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Le bilan humain revu à la hausse au Népal après les émeutes meurtrières des derniers jours contre la corruption. 72 personnes tuées, annonce le gouvernement provisoire nommé en fin de semaine. La nouvelle première ministre, Sushila Karki, a affirmé qu'elle ne resterait pas plus de 6 mois au pouvoir. L'état de santé alarmant pour la Française détenue en Iran, Cécile Colère, dans un bref appel téléphonique à sa mère ces dernières heures. Elle dit être à bout de force. Son compagnon Jacques Paris et elle sont détenus depuis 3 ans dans les geôles iraniennes. Une annonce attendue mais jugée insuffisante pour les syndicats au lendemain de l'abandon de la suppression des 2 jours fériés par Sébastien Lecornu. Le nouveau Premier ministre a également annoncé la création hier de 5000 maisons France Santé d'ici 2027 sur tout le territoire. C'est une grande journée d'action annoncée par la FNSEA, le syndicat majoritaire agricole, qui veut manifester le 25 septembre contre les taxes imposées par Donald Trump, explique son président Arnaud Rousseau, et surtout contre l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Bonjour Julie Paco.
Bonjour à tous.
Le Mercosur, accord contesté par les agriculteurs depuis plus d'un an.
Oui, c'est bien cet accord commercial qui concentre encore et toujours la colère agricole. Un accord validé début septembre par la Commission européenne après 25 ans de négociations et ce malgré les objections de la France. La Commission a donc promis le 3 septembre des garanties robustes aux agriculteurs français, à savoir une clause de sauvegarde sur les produits sensibles. Les importations pourront ainsi être suspendu temporairement ou non dans certaines filières en cas de déstabilisation sur les prix ou les volumes. Des mesures saluées par Paris, mais qui ne suffisent pas à rassurer la FNSEA. Hervé Lapi, son secrétaire général, interrogé par France Info ce matin.
On est en train de perdre notre souveraineté alimentaire au profit d'importations qui ne respectent pas nos normes sanitaires, environnementales et sociales. Et en fait, l'assiette des consommateurs français aujourd'hui va être remplie d'aliments que nous, on n'a pas le droit de produire. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui d'apporter du poulet, de la viande porcine, du sucre, de l'éthanol, des céréales qui ne respectent pas les conditions de production qu'on nous impose, nous les producteurs français.
La FNSEA qui appelle donc toutes ses fédérations départementales à se mobiliser à travers des actions dans les grandes surfaces notamment et qui assume de vouloir mettre la pression sur le nouveau Premier ministre et son prochain gouvernement pour qu'il s'oppose à ce projet d'accord avec le Mercosur. La FNSEA qui avait mené, on s'en souvient, la fronde agricole durant des semaines à l'automne dernier contre ce traité de libre-échange mais aussi pour peser sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, la très controversée loi du plomb adoptée au début de l'été par le Parlement.
Merci Julie Paco. Le Rassemblement National fait sa rentrée ce week-end à Bordeaux. L'ensemble des cadres du parti, dont Marine Le Pen et Jordan Bardella, sont réunis. Ils prendront la parole cet après-midi. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Pour France Culture, vous suivez ces rencontres. Vous êtes en direct du Palais des Congrès de Bordeaux avec Sébastien Chenu, l'un des vice-présidents du Rassemblement National.
Oui, Sébastien Chenu, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Lecornu abandonne la suppression de 2 jours fériés et est prêt à discuter de la justice fiscale. Ce sont des premiers pas positifs.
Bon, d'abord, il a un métro de retard, Sébastien Lecornu, parce qu'en fait, les jours fériés, ils sont tombés avec François Bayrou. En refusant la confiance à François Bayrou, à son gouvernement, à sa politique, à son budget, on a fait tomber automatiquement ces jours fériés qui n'avaient jamais été votés ni inscrits dans la loi. Donc en fait, Sébastien Lecornu acte simplement le départ de François Bayrou et de sa proposition budgétaire. On s'était, nous, le Rassemblement National, opposé d'ailleurs à cette suppression des jours fériés, mais Sébastien Lecornu n'a rien fait de nouveau. Concernant la justice fiscale, nous, on a fait un certain nombre de propositions, mais ce que nous attendons, lui, c'est qu'il rompt avec la logique macroniste. Pas simplement un travail de replâtrage, d'enfumage, de rafistolage, etc., mais rompre avec une politique qui amène la France à avoir plus de 3 000 milliards de dettes depuis, dont 1 200 milliards de dettes supplémentaires depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc rompre avec cette logique, ce n'est pas ce qu'il indique aujourd'hui.
La justice fiscale, c'est le thème qui s'est imposé en cette rentrée. Est-ce qu'il faut taxer tous les riches, les ultra-riches ?
Nous, on a des propositions depuis longtemps qui n'ont malheureusement pas été votées, je veux dire, à l'Assemblée nationale, ni par les macronistes, ni par la gauche. Par exemple, les taxes sur les rachats de dividendes, les taxes sur les rachats d'actions, les taxes sur les surprofits des grandes nouvelles entreprises qui, par exemple, au moment du Covid, non pas grâce à leur stratégie, mais grâce à une actualité, ont pu faire des surprofits. Nous, on a des propositions dans ce domaine-là. Et donc on pense qu'elles ont beaucoup plus de pertinence, là encore, que un peu ce rafistolage dont on ne connaît pas bien pour l'instant les tenants et les aboutissants.
Le RN semble divisé sur cette question. Vous avez un électorat plutôt populaire. Vous cherchez en même temps à vous rapprocher des entrepreneurs ou des plus aisés. Est-ce qu'il n'y a pas un...
Non, on ne cherche pas à se rapprocher des plus aisés. On cherche à pas casser la croissance dans notre pays, ou plutôt à la relancer. Et ce qu'on cherche, c'est plus de justice fiscale. Quand on propose d'augmenter les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales, c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est pour remployer ce pouvoir d'achat dans la croissance. Quand on propose de taxer les rachats d'actions que font les grandes boîtes entre elles, c'est parce qu'on considère que fiscalement, c'est injuste que des grands groupes ne puissent pas évidemment être taxés. Ou quand on propose de taxer les surprofits des grandes entreprises, en particulier celles de l'alimentaire, les grandes sociétés commerciales alimentaires, c'est parce qu'on considère qu'elles doivent participer à l'effort commun et que cet effort ne doit pas être demandé simplement à la France qui travaille ou qui a travaillé.
Marine Le Pen et ainsi Jordan Bardella et tous les responsables du RN disent qu'il y aura rupture ou censure. En fait, à vous entendre et à entendre tous les responsables du RN depuis quelques jours, la question ne se pose pas. On a l'impression qu'il y aura censure.
Il faut attendre ce que Sébastien Lecornu va déclarer. Nous, on a toujours fonctionné ainsi. C'est-à-dire que quand un Premier ministre prend ses fonctions, nous attendons de connaître sa feuille de route, ce qu'il va proposer. Et nous disons à Sébastien Lecornu, si son but, c'est de poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, qui est minoritaire dans le pays, qui a été désavoué à l'occasion des élections européennes, à l'occasion des élections législatives, alors, si c'est la même logique, il y aura censure. Et on va voir ce que Sébastien Lecornu entend de ce message. Mais la balle est dans leur camp, en réalité. Nous, ce que nous voulons, c'est de la stabilité. Et la stabilité, elle ne peut pas venir du maintien d'une équipe gouvernementale qui continuerait la politique d'Emmanuel Macron. Ils créent eux-mêmes l'instabilité et le danger économique. On le voit avec les agences de notation qui baissent notre note. C'est eux-mêmes qui créent cette instabilité économique.
Est-ce que le budget est le seul objet de censure ?
Le budget est le premier objet de censure, puisque c'est, en termes de calendrier, celui qui arrive en premier.
On parle de programmation, de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Alors, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, il faut qu'on voit définitivement ce qu'il y a dedans. Mais nous, telle qu'elle était, et telle que nous l'avons faite, j'allais dire, reculer, nous ne sommes pas prêts, évidemment, à la soutenir. Et elle peut faire l'objet, pourquoi pas aussi, de politique de censure.
Alors, à l'origine, ce rendez-vous bordelais était destiné à lancer les municipales. Est-ce que les enjeux municipaux ne vont pas être éclipsés par la crise politique nationale ?
C'est François Bayrou qui a accéléré ce calendrier et qui a créé finalement une instabilité qui était due déjà à l'instabilité créée par la dissolution et les désistements de la gauche en faveur des macronistes, des macronistes en faveur de l'extrême-gauche. Ils ont ajouté cette instabilité. Et c'est vrai que les enjeux des élections municipales sont importants parce qu'ils touchent au cœur de la vie des gens. Et là encore, sur la fiscalité locale, sur la sécurité, qui sont des grandes attentes des Français. Nous avons des choses à dire et on les a même prouvées puisque nos maires, en général, ont été réélus dès le premier tour.
Merci Sébastien Chenu.
Merci. Bonne journée.
Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, interrogé par Nicolas Ballu depuis les universités d'été du Rassemblement national à Bordeaux. Des arbres sans écorce, fragilisés par les câlins des touristes et des promeneurs. Le plus grand parc de séquoia d'Europe alerte et installe des panneaux pour demander aux promeneurs de ne plus enlacer les troncs. Ça se passe en Espagne, la correspondance de Mathieu de Taillac.
Défense de serrer les arbres dans ses bras. Le message peut surprendre le visiteur de Cabezón de la Sal en Cantabrie, au nord-ouest de l'Espagne. 6 panneaux ont été plantés la semaine dernière parce que la plus grande forêt de séquoia d'Europe, 800 exemplaires sur 2,5 hectares, finit par être abîmée par une mode qui s'est diffusée sur les réseaux sociaux. 200 000 personnes pénètrent dans le bois chaque année et tous ou presque veulent leur photo du câlin autour du tronc. María Jesús García Hoyos est adjointe au maire en charge du tourisme.
Moi, j'allais aux champignons dans cette forêt. On cherchait des cèpes. C'était une forêt vierge. Pratiquement personne n'y allait. Elle était un peu cachée. Un influenceur a débarqué et il l'a rendue tendance. C'est triste parce qu'à force de câlins, les arbres sont amaigris à la hauteur des mains des gens. L'écorce des séquoias est facile à arracher. Le résultat, c'est que les troncs sont écorchés vifs.
La forêt est publique, pas question de la clôturer ni de faire payer l'accès. Les magnifiques séquoias mesurent 40 mètres de haut. Ils ont 80 ans à peine, des bébés à l'échelle de ces arbres appelés à mesurer deux fois plus. si leurs amoureux veulent bien être un peu moins démonstratifs.
Le temps de cet après-midi, des averses et des nuages gris sur toute la France, excepté en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Les températures entre 18 et 20 degrés, 21 degrés sur toute la moitié nord. Plus chaud dans le sud, 24 à Tarbes, 27 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia à la technique, Nicolas Déroulet.